hacer oriental. Je suis totalement satisfait.
Voici les périodes de courroisie au passant-âge. Je pense qu'on peut rencontrer les deux de mes présidents pour trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission interactive Parole aux auditeurs. Le thème d'aujourd'hui, mardi 17 novembre 2009, est les banques et le développement. Peut-être que vous l'avez constaté dans vos milieux respectifs, surtout dans les grandes villes. De plus en plus, les banques s'installent en RDC, environ une vingtaine pour la ville de Kinshasa. Les dernières statistiques de 2008 révèlent qu'en RDC, sur 60 000 habitants, seulement 100 000 possèdent un compte bancaire, soit 0,1%, et le choix des crédits est très faible. Nous focaliserons sur deux questions dans ce thème-là, et qui est d'abord la première question, quel est le rôle de ces banques? Ensuite, selon vous, comment ces banques peuvent-elles contribuer à l'amélioration du quotidien des Congolais? Nous parlerons de ce sujet avec notre invité Victoire Eyoubi. Il est un expert en économie et directeur de publication du magazine économique Entreprendre. Vos avis, propositions et questions sont attendus au cours de cette émission. Bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocatif.net.
Victoire Eyoubi, bonjour.
Bonjour Alain.
Vous êtes économiste et directeur de publication du magazine Entreprendre. Dans les pays développés, industrialisés, nous constatons que l'économie de ces pays repose sur les banques et même l'un des points de départ de la dernière crise internationale financière est parti en fait des banques. Alors quel est vraiment le rôle des banques?
Oui, madame, les banques jouent un rôle très important dans l'économie d'un pays, notamment ce qui concerne l'épargne, l'octroi des crédits, le transfert des fonds. Il y a également d'autres services qui sont liés aux banques et tout cela fait que l'économie du pays repose pratiquement sur ces entreprises privées d'ailleurs, mais également des entreprises officielles comme nous avons la Banque Centrale chez nous. Donc il y a un rôle très très important dans la régulation, il y a un rôle très important dans la circulation monétaire dans le pays, mais également dans le déploiement de l'activité économique en général. Donc tout s'est fait autour des banques et les banques sont comme un moteur, sont comme un poumon qui permet pratiquement l'activité économique de se promouvoir et d'aller de l'avant.
Mais qui fait ça, une vingtaine de banques, est-ce que c'est suffisant ou bien en font encore?
Ce n'est pas encore suffisant, d'autant plus que nous sommes dans une scène qui est libéralisée. C'est juste pour montrer que l'activité économique est en train de reprendre dans notre pays, mais il faut signaler là que la plupart de ces banques sont financées ou dirigées de l'extérieur.
Oui.
À ces jours, pratiquement, nous n'avons plus de banques congolaises après le changement de main de la BIC. Pratiquement toutes les autres banques sont dirigées grâce à des capitaux extérieurs.
Oui, c'est comme par exemple la Banque commerciale du Congo, la BCDC, qui a environ 25% seulement des capitaux qui viennent de l'État congolais.
L'État
alors c'est la banque qui a le plus de pourcentage qui vient en fait des capitaux qui viennent de l'État congolais.
Exactement, mais pour les autres banques, malheureusement, ce sont plus les étrangers qui s'intéressent à ce secteur qui est capital, qui est vital pour l'économie de notre pays. Et je crois que les Congolais doivent se réveiller et voir comment jouer un rôle important dans ce secteur.
Nous allons prendre un auditeur, il s'agit de Yvon. Bonjour Yvon.
Bonjour madame.
Yvon, vous nous appelez de Kananga au Kasaï occidental. Et dites-nous, selon vous, vous êtes au Kasaï occidental, est-ce que vous avez aussi des banques qui sont en train d'ouvrir leurs portes dans le chef-lieu de cette province?
Oui, il y a des banques qui sont en train d'ouvrir des portes. Dernièrement, nous avons la nouvelle banque congolaise qui a ouvert ses portes. D'ailleurs, nous faisons des transactions, notre institution fait des transactions sur cette banque-là.
Mm-hmm.
Mais ces banques, les Congolais, tellement que les Congolais ont pris cette critique de banque-là, ils ne sont pas vraiment fréquents dans les banques, parce que, d'ailleurs, nous sommes presque à 80% des gains petits, les banques sont presque pour juste les dinosaures, les gens qui ont fait d'argent.
Oui, et qu'est-ce que vous pensez que ces banques peuvent faire au niveau du casseur sédentaire? Quel est le rôle de ces banques? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour les calanguer?
Oui, les banques, là, pour que ça fasse quelque chose, il faut d'abord que l'économie puisse reprendre sa place. Pour que l'économie puisse reprendre sa place, il faut que le gouvernement puisse donner une impulsion dans l'économie, une impulsion de la production, une création des emplois, comme ça les gens peuvent comprendre le bien fondé de l'épargne. Jusque-là, le Congolais, tellement qu'ils vivent en dessous de 1 dollar par jour, ne savent même pas faire l'épargne.
Oui.
C'est ça, vraiment, le bien fondé d'avoir au Congo.
Merci beaucoup, Yvan. Vous appelez de Kananga. Pour vous, il y a vraiment un manque de confiance et aussi manque de revenus pour pouvoir épargner dans ces banques. Nous allons nous rendre au Nord-Kivu. Vous à Goma. Bonjour, Makassi.
Bonjour, madame la journaliste.
Oui, dans votre milieu, est-ce qu'il y a aussi des banques qui sont en train d'ouvrir leurs portes?
Oui, nous ignorons vraiment, il y a une prolifération des banques ici à Goma. Bien sûr, vous savez, c'est le système, je dirais, moderne. Hein. Mmh. Et voilà, les banques, tout à fait, sont là pour une assurance. Et puis à la pérennisation, et puis pour assurer les services, que je dirais, générateurs des recettes à ses membres adhérents. Mais ce qui est vrai, les banques nous trouvent tout juste le contraire. Aujourd'hui, nous assistons à une même gabegie.
Laquelle?
Une gestion frauduleuse, on sait, de ces banques-là, vis-à-vis de ses membres. Puisque aujourd'hui, je dois conclure, madame, que les banques sont là pour rationner et non pour assurer justement l'épargne, etc. Mais vraiment, je dois appeler justement les responsables de toutes les banques, que centrales, que justement provinciales ou locales, vraiment d'aboutir à une crédibilité qui va nous apporter une prospérité croissante, madame la journaliste.
Merci beaucoup, Makassi. Vous nous appelez de Goma, au Nord Kivu, pour votre apport dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Victoire Ayobi, vous êtes économiste et vous êtes aussi directeur de publication du magazine Entreprendre. Vous avez suivi nos deux auditeurs. Il s'agit d'abord de Yvon qui nous a appelé de Kananga, qui pense qu'il y a un manque de confiance entre les banques et les prêteurs, si on peut dire, les gens qui doivent déposer leur argent dans les banques, et aussi à passer de revenus pour pouvoir déposer dans ces banques, mais aussi à Makassi qui parle de transparence au niveau de la banque. Que répondez-vous d'abord à Yvon par ce manque de confiance?
Disons que le manque de confiance est lié un peu à une situation antérieure. Vous savez, la crise que notre pays a connue, pratiquement tous les tissus économiques étaient détruits et les banques avaient également subi cela. Ce qui avait fait que pratiquement, d'abord, on n'avait pas un grand nombre de banques, ça vous le savez, on avait une poignée de banques sur le terrain, mais ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, il y a un mouvement contraire qui est en train de se manifester, et je vous fais remarquer également que ce mouvement est mieux perçu par les mamans commerçantes, par les maraîchères, par les opérateurs des ONG, ce qui fait que la plupart des banques qui naissent actuellement se tournent beaucoup plus vers cette catégorie
les
microcrédits, les microfinances, plutôt que vers les grandes entreprises. Les grandes entreprises, vous le savez.
Aussi, c'est que ces banques aussi manquent de confiance envers les personnes qui demandent des grands crédits, des crédits assez énormes.
Je ne crois pas tellement, mais plutôt il faut lire les signes du temps. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de la population qui reprend petit à petit confiance vis-à-vis des banques, qui non seulement loge ses fonds, mais encore obtient également des crédits.
Oui, parce qu'il y avait eu même en 2002 la loi sur la restructuration des banques.
Exactement.
Où il y avait, en janvier 2002, il était question même de... On avait même liquidé plusieurs banques, elles avaient fermé, et il y avait certaines qui ont été restructurées. Mais comment est-ce que cette fois-là, elles se tournent plus vers les microcrédits? Est-ce que ces banques ont plus confiance en donnant des petits crédits que donner des grands crédits? Est-ce que c'est un peu cela.
Oui, vous savez, les grands crédits, ils font des consommateurs, et les consommateurs, ce sont des entreprises. Or, les entreprises connaissent des sérieux problèmes, notamment les entreprises publiques, mais au niveau des microcrédits, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes ces commerçantes, il y a toutes ces ONG qui ont repris le chemin des banques.
C'est une façon pour les banquiers de pouvoir d'abord donner des petits crédits pour pouvoir réinstaller la confiance avant de pouvoir donner des grands crédits.
Il en va de leur politique, mais ce qui est vrai, c'est que ça paye très bien. Parce que dans notre pays, madame, il y avait également un problème d'accès même aux banques. L'accès aux banques, il fallait un parrainage, il fallait payer 2 000, 3 000
dollars pour ouvrir un compte.
Pour ouvrir juste
un compte. Maintenant, avec 50 dollars,
il y a également d'autres banques qui ne demandent pratiquement rien pour accéder, pour ouvrir un compte. Mm-hmm. Et ça, vraiment, ça a facilité, ça a créé un engouement, ça a créé une ouverture, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui vont vers les banques.
Nous allons nous entretenir avec Théodore. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Vous nous appelez de Kinshasa.
Oui.
Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez que les banques puissent faire pour le développement de notre pays?
En tout cas, il faut qu'ils offrent des crédits à ceux qui en ont besoin.
Mm-hmm.
Oui.
Donc, vous pensez qu'on ne donne pas suffisamment de crédits aux populations?
En tout cas, je ne pense pas.
Et selon vous, il fallait que ce soit un peu plus transparent. Est-ce que vous avez essayé? On a refusé de vous donner un crédit?
Bon, je n'ai pas encore essayé.
Oui.
Oui.
Oui. Alors, merci beaucoup, Théodore. Vous nous appelez de Kinshasa. Merci beaucoup pour votre rapport. Pour vous, il faudrait plus donner de crédit aux demandeurs. Oui. Monsieur Pichou, il nous appelle de Bukavu. Bonjour, Pichou.
Bonjour.
Oui, Pichou, on vous écoute.
Bon, comme vous avez souligné, nos banques présentent les avantages comme les inconvénients.
Mm-hmm.
À Bukavu, nous avons des banques qui présentent aussi des inconvénients. Nous avons par exemple l'insolvabilité de quelques banques, disons le manque de liquidité. Vous pouvez épargner, mais vous manquez de liquidité. Cela, ça cause problème.
Oui. Donc, il y a des gens, vous déposez votre argent dans la banque, mais le jour où vous voulez récupérer, il n'y a pas de liquidité. C'est un peu ça.
Oui. Bon, nous avons aussi d'autres problèmes dans nos banques ici à Bukavu. Nous avons, par exemple, disons, la pauvreté de la population. Il y a cela. Disons, il y a les gens qui manquent de quoi hypothéquer. Ils peuvent avoir des initiatives de développement, mais il manque quelque chose à hypothéquer. Ils n'ont pas de maison, ils ne travaillent pas. Ça aussi, ça cause des problèmes ici à Bukavu.
Mais dans la banque, je voudrais avoir plus de précision par rapport à cela. On vous demande d'hypothéquer, donc on vous demande une certaine garantie. C'est dans la banque qu'on vous demande cela. C'est l'une des conditions pour ouvrir un compte bancaire ou bien pour avoir un crédit.
Bon, pour avoir un crédit, comme je dis, la population est tellement pauvre, bon, on peut vous demander d'hypothéquer quelque chose. Vous n'avez pas du boulot, vous n'avez pas une maison, vous manquez de quoi hypothéquer et cela cause préjudice à certains gens qui ont des initiatives de développement.
Merci beaucoup, Pichou, pour votre rapport. Vous nous appelez de Bukavu, au sud de Kivu. Monsieur Victoire Eyobi, vous avez suivi cette série d'auditeurs.
Oui.
Notamment Pichou qui dit que, par exemple, à Bukavu, dans la banque où il voulait avoir un crédit, on lui a demandé une certaine garantie, oui. Notamment, soit mettre en hypothèque sa maison. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec ce système-là, ça peut aider la population à avoir de nouveau confiance aux banques?
Disons que tout dépend des banques, mais ce qui est vrai, c'est que le secteur de crédit est un secteur sensible. On ne donne pas les crédits à n'importe qui. D'abord, il faut ouvrir son compte dans l'institution bancaire.
Préalablement, il faut avoir un compte.
Un compte qui est fourni régulièrement, quand même entretenu. Mais encore, si par exemple vous êtes une organisation, comme lui parle de projet, le projet doit entrer dans les cadres soit d'une organisation, par exemple, et quand c'est une organisation, il faut un statut légalisé, il faut donner un peu des preuves, des sérieux. Et ces preuves de sérieux peuvent amener jusqu'à une garantie, c'est-à-dire donner un gage, mais encore si vous êtes par un atelier de couture, parce qu'actuellement, même les ateliers de couture obtiennent des crédits. Donc, je les rassure là que tout dépend d'abord de son organisation personnelle. S'il a une activité, il pense comment promouvoir cela, il n'a qu'à commencer à s'organiser, trouver un endroit où il installe son atelier, où il installe son ONG, avoir un statut légalisé. Ce sont toutes ces petites conditions, je crois que s'ils sont remplis, c'est facile de présenter un dossier bancable et de le défendre auprès d'un partenaire.
Là, vous avez même répondu à Théodore qui nous appelait de Kinshasa, lui, il désirait qu'il y ait plus de crédit.
Oui.
Donc, premièrement, avant d'avoir un crédit, il faut d'abord avoir un compte.
Un compte.
Un compte en banque.
La plus petite des conditions. Et, en plus de cela, donner des preuves d'existence, des preuves de présence sur le terrain.
Oui, nous allons revenir enfin à cette confiance. Par exemple, dans les années 90, au niveau du café occidental, il y avait la CADECO qui est de toujours. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient déposé leur argent à la CADECO. Et pendant un moment, on n'a pas pu leur rembourser. Ce n'était plus possible qu'ils puissent récupérer leur argent, comme l'a souligné Makassi, aussi Pichou, que des fois, il n'y a pas de liquidité dans la banque. Comment est-ce que la confiance peut revenir si vous déposez votre argent, mais vous ne pouvez pas la retirer, cet argent, quand vous en avez besoin?
Oui, tout dépend du fonctionnement du système bancaire dans notre pays. Vous savez, actuellement, il y a une bonne coordination entre la Banque centrale du Congo et les banques commerciales. Vous avez vu, avec la crise financière, régulièrement, il y avait des opérations de vente des devises qui permettaient aux banques commerciales de s'approvisionner.
Donc, mais en cas de faillite, par exemple, de la CADECO, qui doit rembourser?
Oui, la CADECO, vous savez, sa faillite est intervenue à une époque bien précise. Une époque où, comme je vous ai dit, le tissu économique congolais était pratiquement désagrégé. Donc, même le système bancaire était entamé. Mais actuellement, il y a un mouvement contraire. Il y a une coordination banque centrale et les banques commerciales qui font que l'un comme l'autre puisse savoir comment se surveiller. Les banques commerciales, vous savez, ils fonctionnent en tenant compte d'un montant. Ils fonctionnent en tenant compte d'un nombre bien précis de clients. Donc, tout est bien réglementé de manière à ce que les banques commerciales ne tombent pas aussi facilement en faillite.
Alors, pour ceux qui ont perdu leur argent, ils ne vont pas rembourser, il n'y a pas de garantie.
Bon, tout dépend des démarches qu'ils mènent auprès de ces banques-là.
Merci beaucoup. Nous allons rejoindre Dieudonné à Calémie. Bonjour Dieudonné.
Bonjour madame.
À Calémie, vous avez aussi plusieurs banques qui ouvrent leurs portes. Vous avez constaté cela?
Ici, chez nous, nous constatons qu'il y a deux banques de loin. Mm-hmm.
Et que pensez-vous? Que peut faire en fait ces banques pour pouvoir aider au développement?
Bon, madame, moi, je vais réagir sur base de trois. Moi, je pense qu'il y a trois causes.
Oui.
La première cause, c'est d'abord la confiance entre la population et le banque.
Oui.
Parce que suivant l'histoire, depuis à l'époque où vous dites, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui avaient donné confiance à différentes banques, mais jusqu'à maintenant, ils ont perdu leur argent face à des situations pillages et quelque chose.
Mm-hmm.
Le deuxième problème que nous constatons ici chez nous en Calémie, c'est qu'ils ont aussi des liquidités, tel que vous l'avez annoncé. Vous pouvez déposer votre argent à la banque. Mais, arrivé à un certain moment, lorsque vous avez besoin de faire travailler votre argent, allez là-bas. Ne pose pas de tout vos besoins de toute votre compte pour vous donner. Alors, cela crée aussi des problèmes.
Oui, et le troisième point?
Troisième point, maintenant, c'est sur la confiance. Parce que j'aimerais demander à notre intervenant. Est-ce que même les autorités, par exemple, commençant les autorités politiques, le président et quelque chose, et quelques personnes, est-ce qu'ils disposent vraiment la confiance et leur compte dans nos banques congolaises?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieudonné. Notre invité va pouvoir répondre à vos questions. Merci d'avoir appelé de Calémie au Katanga. Nous allons prendre Franck. Bonjour Franck, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour madame.
Oui Franck, votre rapport à cette émission?
Oui, en fait, j'ai suivi votre émission dès le début. Vous avez dit que le sujet, c'est les banques et développement.
Oui, c'est le thème.
Oui, alors, moi, je l'ai dit que pour qu'une banque contribue au développement, elle doit être en mesure de réduire le crédit. Parce que c'est grâce au crédit qu'il y a investissement. Or, on se rend compte aujourd'hui avec nos banques, elles ne sont pas en phase avec la population. Parce qu'une bonne partie de la population vit dans l'économie informelle. Et n'a pas d'hypothèque pour pouvoir bénéficier des crédits bancaires, parce que les banques ne prêtent pas les crédits sans hypothèque. Et donc, je crois que les banques devraient s'orienter beaucoup plus vers les banques de développement ou les banques de microfinance qui permettent à des associations, des personnes qui sont dans des activités plus ou moins formelles, de pouvoir emprunter sans nécessairement besoin d'hypothèque pour booster le développement de l'économie nationale. Mais j'encourage bien évidemment la présence de ces banques, en dépit du fait effectivement que la plupart de ces banques sont tenues par des étrangers. Et donc ça met en difficulté l'économie nationale. Les jours où ces étrangers ne sont pas en phase avec l'économie nationale, ils vont partir et ils n'auront plus de banques. Donc il faut promouvoir des banques qui sont faites par des fils du pays, qui puissent amener l'argent et garder l'argent au pays et les prêter à leurs frères à des conditions plus avantageuses pour permettre à ce qu'on investisse dans des projets d'investissement et de développement.
Merci beaucoup, Franck, pour vos propositions. Mais vous avez demandé en fait que plus les banques devraient qu'il y ait plus de banques congolaises avec des investisseurs congolais. Et aussi, vous avez pensé à l'hypothèque, un crédit sans hypothèque, si c'est possible. Nous allons nous rendre à Lubumbashi au Katanga. Bonjour, Bestin.
Bonjour, madame.
Oui, Bestin, votre rapport par rapport à cette émission sur les banques.
Ok, merci beaucoup. J'aimerais intervenir d'abord par rapport aux capitaux. Vous savez que les banques qui fonctionnent maintenant au Congo, la plupart, ont beaucoup d'actionnaires, hein, pour commencer. Et vous allez voir qu'une banque a 5-6 actionnaires étrangers. Donc, ils peuvent avoir la volonté d'aider, de soutenir les Congolais ou de renforcer l'économie congolaise, mais eux-mêmes doivent commencer par avoir beaucoup d'argent. On ne peut pas prêter si on n'en a pas. Donc, il faut commencer par soi-même avoir beaucoup d'argent. Donc, vous dites qu'il y a une vingtaine de banques. Est-ce que réellement toutes ces banques-là peuvent répondre aujourd'hui aux attentes des Congolais qui font des affaires, des Congolais qui veulent mettre leur argent en sécurité? Est-ce qu'ils ne font pas justement un jeu? Donc, on dépose l'argent et ils prennent ce même argent-là des clients, ils prêtent, ainsi de suite. Donc, ils ne font pas un cercle.
Oui.
Il faut que la banque ait elle-même l'argent pour donner.
Oui, merci
par
beaucoup.
Exemple, je peux donner par exemple un petit exemple.
Oui, donnez-nous votre exemple, bref, d'une façon assez brève.
On peut ouvrir un compte en banque, mais on se retrouve, chaque mois, on ouvre un compte, et on soustrait dans ton compte là quelque chose sans
pour entretenir le compte.
Oui, chaque fois on soustrait, peut-être il faut payer chaque mois, mais sans qu'on est informé. Donc vous voyez que déjà il y a là un problème.
Bon, mais à ce que je sache, pour les banques, chaque fois qu'on veut ouvrir un compte, on vous donne tous les préalables possibles par rapport, on vous dit si vous voulez un compte courant, on vous dit tout ça. Donc au préalable, quand vous ouvrez un compte, à ce que je sache en tout cas, on explique tout ça. Mais merci, Bessin, notre invité pourra nous donner plus d'éclaircissements par rapport à votre question, à votre préoccupation. Nous avons Wilson, il nous appelle de Bukavu. Bonjour Wilson.
Oui, bonjour.
Et Wilson, quelles sont vos préoccupations par rapport au thème d'aujourd'hui sur les banques?
Bon, moi, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'assurance. L'assurance par le fait que, qu'est-ce que les banquiers? Qu'est-ce que les banquiers assurent aux épargnants? Après, parce que nous vivons dans le pays du tiers-monde, où il y a toujours des conflits armés, il y a des calamités. Mais qu'est-ce que les banquiers? Parce que ça peut arriver que quelqu'un ait son argent, il y a un peu de moyens, et qu'il est parvenu à épargner ses moyens. En épargnant ces moyens, peut-être qu'il peut y avoir des calamités ou qu'il peut y avoir d'autres magouilles, même au sein de la banque, quand il y a des conflits, quand il y a des conflits de guerre. Qu'est-ce qui lui serait rassurant? Parce que nous avons des expériences de certaines personnes qui ont osé épargner un jour leur vie, tout ce qu'ils avaient comme vie, et que par la suite, ils n'ont pas su être retournés leur vie. Ils sont devenus pauvres comme ça, pourtant.
Ils avaient gardé leur argent en banque. Ils avaient épargné en banque. Merci, Wilson. Vous nous appelez de Bukavu, au sud de Kivu. Nous allons rejoindre notre invité encore après ceci.
Vous êtes jeune et branché? Vous êtes très passionné de tout connaître? Alors, faites-le plein d'énergie dans votre émission Total Énergie. Rejoignez d'autres jeunes sur Radio Capri tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 16h. Total Énergie, c'est l'énergie totale.
C'est l'émission Parole aux auditeurs et aujourd'hui nous parlons des banques et du développement. De plus en plus, les banques s'installent en RDC, environ une vingtaine de banques dans la ville de Kinshasa. Les dernières statistiques de 2008 révèlent qu'en RDC, sur 60 millions d'habitants, seulement 100 000 possèdent un compte bancaire, soit 0,1%, et l'octroi des crédits est faible. Quel est le rôle de ces banques? Et selon vous, comment ces banques peuvent-elles contribuer à l'amélioration du quotidien des Congolais? Si vous voulez participer en direct, vous avez deux possibilités. Appelez-nous au 081 99 77 800, je reprends, au 081 99 77 800, ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Radio Okapi s'écrit en un mot avec deux lettres O. Victoire Eyobi, vous êtes économiste et vous êtes aussi directeur de publication de magazine Entreprendre. Vous avez constaté, les préoccupations des auditeurs sont vraiment réelles, notamment notre ami, notre auditeur de Bessin, qui nous appelait de Lubumbashi, qui dit en fait qu'il y a un problème de crédibilité des banques. Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'est-ce qui nous rassure que ces banques peuvent effectivement pouvoir rembourser cet argent, mais aussi ça nous renvoie à savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'une banque puisse s'installer. Est-ce qu'il y a des garanties qu'elle doit donner au gouvernement, parce que la plupart des banques qui sont pour l'instant actives ici à Kinshasa notamment, ce sont des banques où il y a beaucoup plus des étrangers qui sont des actionnaires dans ces banques.
Oui, disons, pour répondre à toutes ces préoccupations, je les ai résumées pratiquement en quatre, notamment le problème des liquidités. Ce qui est vrai, c'est que en créant une banque, c'est un investissement, c'est-à-dire un groupe de gens qui réunissent des capitaux et qui remplissent les conditions légales au niveau de la banque centrale. Donc
ils déposent quand même des réserves.
C'est-à-dire ils s'engagent sur un montant bien défini qui garantit que quand les gens vont déposer, il y aura également la possibilité qu'ils puissent retirer régulièrement leur argent. Je vous ai donné le cas de la crise financière internationale. Ça fait que la banque centrale viennent pratiquement au secours de toutes les banques locales qui sont ici, notamment en devises étrangères. Alors, concernant la confiance, ce qui est vrai actuellement, sans parler de toutes nos autorités, mais de plus en plus, il y a des entreprises qui retrouvent les chemins de banque, c'est-à-dire les salaires sont payés dans des comptes bien ouverts dans les banques. Oui. Et je me dis également, il y a les forces armées, les autres institutions, le Parlement, les députés. Je ne veux pas vous citer les banques où ils se rendent, mais de plus en plus, la plupart de nos autorités sont payées directement
à
travers les banques.
Mais ensuite, qui vous une question d'insécurité. Quand on a déposé son argent et puis il y a...
J'arrive à cela. Vous savez, cher auditeur, une banque comme toute autre institution économique ne peut bien fonctionner que dans un environnement de paix. Donc nous disons que quand la paix sera bien installée dans le sud Kivu, je me dis que les populations de l'autre côté bénéficieront des mêmes conditions, des mêmes privilèges que ceux qui sont à Kinshasa.
Mais en attendant.
Oui, en attendant, vraiment, il faut
attendre. Garder l'argent à la maison, thésauriser l'argent.
Pas tellement thésauriser, mais s'il peut y avoir des institutions dans les environs qui peuvent garantir la sécurité, je crois qu'il y a lieu de leur faire confiance. Je crois qu'il n'est pas recommandé aux gens de garder l'argent à la maison, parce que s'il y a un incendie ou autre, vous perdez tout l'argent. Et puis, pour vous-même, personnellement, c'est un sujet d'insécurité, parce qu'à tout moment, vous pouvez être cambriolé et vous perdez comme cela toute votre fortune. Alors, les étrangers qui investissent, c'est une très très bonne chose, mais il y a lieu que les hommes d'affaires congolais puissent se réveiller. Nous ne manquons pas de hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent mais logés à l'étranger, ils peuvent rapatrier cela et surtout aller dans les sens du secteur bancaire, ça fera une très bonne chose.
Mais les réserves pour créer une banque, ça peut s'élever à combien? Comme ça, ça permettra à ceux qui veulent déposer leur argent d'être garantis, s'ils savaient, ça s'élève souvent à combien?
Je ne sais pas vous le définir ici, mais tout dépend de la vocation de la banque. Il y a des microfinances, par exemple. Il y a des banques qui sont tournées vers les PME, les PMU, mais il y a également des banques pour les grandes entreprises. Ils n'ont pas
la microfinance. Par exemple, pour les microfinances. Parce que c'est ces banques-là qui intéressent le plus.
Qui intéressent le plus de population. Je ne sais pas vous donner un montant précis, parce que je vous dis, tout dépend de la taille de l'entreprise, comment ils s'engagent. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un capital de départ. Alors, concernant l'assurance conflit armé et autres, comme j'ai dit, notre prière est que dans les zones où il y a des conflits, la paix revienne rapidement pour que l'activité économique ainsi que l'activité bancaire puissent être déployées et bénéficier aux populations.
Oui, et pour essayer de répondre à Franck, parce qu'il dit que pour avoir un crédit, il faut nécessairement hypothéquer.
Exactement.
Est-ce que c'est toutes les banques qui demandent, qui ont ça comme condition?
Non, pas toutes les banques nécessairement, parce qu'il y a des microcrédits, des crédits de 5 000 $, des crédits de 10 000 $.
Et même de 1 000.
Même de 1 000, on en trouve actuellement, mais il faut quand même constituer un dossier. C'est un crédit, ça vous engage, comme nous avons dit, il faut un compte bancaire, il faut une activité qui prouve que vous pourrez rembourser à échéance cet argent, et également il y a une enquête qui est toujours menée, notamment une enquête de terrain, pour savoir si réellement vous êtes logé à telle adresse et que vous avez une activité à tel endroit. Donc il y a un dossier à constituer.
Nous allons nous rendre à l'est du pays, au nord Kivu, à Butembo précisément. Bonjour Christophe.
Bonjour, c'est Daniel s'il vous plaît.
Oui, c'est Daniel, vous êtes à Butembo, au nord Kivu. Nous voudrions savoir, Daniel, selon vous, comment les banques peuvent-elles contribuer à l'amélioration du quotidien des Congolais?
Bon, en fait, les banques devraient contribuer à l'amélioration du quotidien des Congolais en octroyant des crédits afin que ces crédits permettent justement aux Congolais de financer le type d'activité qu'ils entreprennent.
Mais au niveau de Butembo, oui, je voudrais savoir, au niveau de Butembo, vous avez quand même des banques.
Oui, il y en a plusieurs, des banques et des institutions de microfinance, il y en a vraiment plusieurs, c'est plein ici.
Oui, vous disiez.
Oui, je disais, mais ce que nous regrettons, c'est que les banques, au lieu de, en fait, d'assouplir les conditions et même d'alléger les taux d'accès au crédit, elles ne font qu'augmenter ces taux-là, et ce qui ne permet pas à cette exigue population d'accéder au crédit pour financer les activités. Et ce qui freine un peu le développement. Parce que vous voyez quelqu'un qui entreprend des petits commerces, qui n'est pas si rentable, qui ne donne pas trop de profit, et quand il doit recourir à des crédits bancaires qui coûtent excessivement cher, vous voyez vous-même que quelques temps après, il sera dans les capacités, dans les possibilités
de rembourser,
de restituer cet argent-là.
C'est
et donc, à mon sens, je pensais que l'autorité bancaire devait réguler les banques et puis les institutions de microfinance afin que ces institutions-là puissent appliquer du moins le même taux à ce qui concerne les crédits et puis alléger les conditions d'accès au crédit. Parce que tout à l'heure, l'intervenant qui est sur le plateau venait de dire que en fait, ces conditions-là ne sont pas applicables pour toutes les institutions. Mais ici, chez nous, nous remarquons que même quelqu'un qui veut avoir un crédit de 500 $, on lui demande une garantie, une hypothèque. Par exemple, le certificat de sa parcelle.
Oui, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. On a compris que vous voulez qu'on puisse assouplir, en fait, les conditions pour bénéficier d'un crédit, mais aussi revoir le taux de quand on rembourse, en fait, ce crédit. Nous avons Christophe en ligne, lui aussi, il est à Butembo, au nord Kivu. Bonjour, Christophe.
Bonjour, madame.
Oui, Christophe, votre rapport à cette émission concernant les crédits, et plutôt les banques.
Merci beaucoup. Je disais que nous avons un problème très sérieux sur Butembo, dans le secteur des banques, au niveau de la communication entre les banques et ceux-là qui veulent souscrire.
Donc, vous pensez qu'il faudrait qu'ils expliquent mieux et davantage comment fonctionnent ces banques?
Oui, c'est tout ça, parce que la majorité ici est analphabète. Dernièrement, nous avons assisté à un vaste réseau une popularisation de la population par rapport à la faillite de la plupart des banques ici à Boutembo.
Et qu'est-ce qui s'était passé?
Ben, écoutez, madame, comme vous le savez, nous sommes dans une récession mondiale, mais dernièrement, il y avait des banques qui ont poussé comme des champignons ici, mais qui vraiment des banques qui n'ont pas fait lancer quoi.
Merci beaucoup Christophe. Donc vous parlez d'un déficit de communication, mais aussi vous pensez qu'il y a certaines banques qui ne sont pas tout à fait crédibles. Merci beaucoup pour votre rapport à cette émission. Nous allons nous rendre plus au nord, en province orientale, à Mahagui. Bonjour Oscar.
Bonjour journaliste.
Oui Oscar, votre contribution par rapport à cette émission.
Par rapport à cette émission, journaliste.
Oui, madame.
Je voulais seulement, contribuer à cette émission disant quoi.
Oui.
Je voulais vous montrer qu'à Mag, ici précisément, il n'y a pas de banque. Jusque-là, il y a seulement des sincères, Barata Prince.
Oui, des coopératives, sous forme de coopératives paysannes.
Voilà.
Oui.
Et ils sont partis comme ça. Maintenant, il n'y a pas une banque à Mahagui. Est-ce que Mahagui seulement n'est pas l'un des territoires congolais pour ne pas avoir de banque centrale congolaise à Mahagui? C'est ça la question que je voulais vous poser.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent ici à Mahagui précisément,
mais
ils n'ont pas de l'argent, ils ne savent pas où poser, placer leur argent à banque.
Merci beaucoup Oscar, hein? Merci beaucoup. Hein? Nous avons compris votre souci, c'est qu'à Mahagui qu'il puisse aussi y avoir une banque centrale ou bien d'autres banques commerciales en vue de prodiguer aussi des conseils aux commerçants, à ceux qui voudraient placer leur argent. Victoire et Yobi, vous êtes notre invité. Vous pouvez aussi répondre quand même à certains de nos auditeurs qui posent quand même des problèmes assez pertinents. Hein.
Je partage la préoccupation de Daniel de Boutembo concernant le crédit pour financer les petites activités. Et là, je reviens encore pour dire que à Kinshasa ici, ça s'est fait déjà à travers les institutions de microfinance qui donnent des crédits même aux tailleurs, aux mécaniciens, aux mamans maraîchères, question d'ouvrir un compte, question de constituer un dossier.
D'être informé, bien sûr.
D'être informé, oui.
Ça va comment ça
Oui, je rejoins le problème de la communication. La plupart des banques font actuellement une démarche de proximité vers les populations. Mais jusque-là, il faut reconnaître que la sensibilisation n'est pas encore au niveau qu'il faut. Parce que comme l'autre intervenant a soutenu tout à l'heure, le problème de l'analphabétisation, vous savez, dans notre pays, c'est vraiment un problème. Je me dis que les banques, s'ils veulent avoir beaucoup plus de comptes ouverts, ils doivent également beaucoup investir de ces côtés-là.
Alors, des dépliants en langue.
Des dépliants, de visiter ces populations, d'aller même dans les écoles, les instituts supérieurs, les universités, parce que ce sont les épargnants de demain.
Oui.
Alors, il y a un réel problème des régulations au niveau des banques, et là, c'est la responsabilité de la Banque centrale qui octroie le permis de fonctionnement.
Il y a même, par exemple, Charles qui nous écrit à partir de Bujumbura.
Oui.
Il dit, il pense qu'en RDC, les banques n'existent que de nom. C'est
oui.
à la mauvaise politique du pays, contrairement à ce qui se fait ailleurs.
Oui, c'est pour cela que les observateurs soutiennent que l'amélioration du climat des affaires dans notre pays doit s'accompagner de la restructuration du secteur bancaire en RDC. Nous disons que cette restructuration doit permettre non seulement à la Banque centrale de jouer son rôle, mais également aux banques commerciales, aux coopératives et autres, de pouvoir rendre réellement service aux populations. Donc c'est ça la préoccupation. À Oscar de Mahagui, je lui demande d'abord dans un premier temps de faire confiance aux coopératives, quitte à ce que les acteurs, les responsables de ces coopératives animent cela convenablement, parce que les grandes banques sont en train de se déployer et les déploiements dans un grand pays comme la RDC, ça va prendre du temps.
Mais alors, comment est-ce qu'une personne peut reconnaître une bonne banque? Comment elle peut dire que celle-ci, elle est crédible?
Bon, tout dépend d'abord de son organisation, et l'organisation, vous savez, c'est...
Il doit s'informer,
savoir son organisation, ses origines, et connaître même également les investisseurs qui sont derrière cette banque-là. Et connaître également si sur le plan légal, il est vraiment reconnu au niveau de la Banque centrale et dépend véritablement de la Banque centrale.
Oui, nous allons nous rendre à Kinshasa. Nous sommes restés à Kinshasa avec Rombo qui est en ligne. Bonjour Rombo.
Bonjour madame, je salue votre invité.
Oui.
Déjà, je le prends au mot par rapport à ce qu'il est en train de dire.
Oui, on vous écoute.
Pour connaître les investisseurs, disons les propriétaires de la banque. Là, déjà, il y a un problème en fait.
Oui.
Parce que comme vous le savez, les banques aujourd'hui s'adressent à une population qui n'a pas suffisamment un niveau assez élevé pour connaître le rouage de tout ça. Donc là, déjà, il y a un danger. On s'adresse à une population qui n'a pas un certain niveau. Là, n'est pas le problème. Madame, vous et moi, certainement, nos parents nous disaient que la plupart de nos maisons ont été construites par des financements que les banques ont.
Oui, c'est ça.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un site qui est dans une société de la dette pour obtenir un financement auprès d'une banque, par exemple, pour investissement des maisons, tu ne peux pas l'avoir.
Oui, on donne que des petits, des microfinances, hein, on ne donne pas suffisamment pour construire une maison.
Justement, il s'adresse plus aux microfinances, et là, nous nous trouvons qu'il y a un danger. Donc, la population, il faut prendre quelle est la population congolaise aujourd'hui, on est élevé à combien?
Vous pouvez vous éloigner de la route, là, parce qu'on entend tous les bruits de fond pour qu'on ait une meilleure qualité de son.
Malheureusement, je suis dans une voiture, et donc...
Vous pouvez remonter les vitres, c'est plus facile.
Tout à fait, madame, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Oui.
Donc, voilà. C'est dire que nous sentons quand même un petit danger par rapport à tous ces banques qui fonctionnent dans notre pays.
Oui.
Donc, nous disons qu'ils ne donnent pas vraiment suffisamment de garanties et plusieurs auditeurs ont soulevé ces problèmes. Nous estimons que ces banques-là, le fait d'abord qu'on ne connaît pas trop bien les investisseurs qui viennent, et nous, peut-être à regard apparent, on a peur que ce sont des gens seulement qui viennent blanchir leur argent ici.
Oui, d'autant plus qu'on voit des beaux bâtiments, et même quand on entre dans une banque, souvent c'est tellement propre que des fois les gens...
C'est ce qui est apparent, madame, c'est ce que nous considérons que ce qui est apparent, vraiment, c'est vraiment une appart, mais en réalité, ces gens, ils sont là peut-être pour autre chose... si ce n'est pas vraiment des blanchiments de l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Merci beaucoup pour votre participation, votre préoccupation. Nous l'avons entendu, notre invité aussi l'a suivi. Nous allons maintenant à Kindou. Bonjour Gaston.
Bonjour.
Oui Gaston, selon vous, comment ces banques peuvent-elles contribuer à l'amélioration du quotidien des Congolais?
Oui, bon, pour moi, je pense que quand il y a certains problèmes dans ce pays, on associe beaucoup les églises. Mais quand il s'agit de l'argent, on n'associe pas les églises. Je pense que les églises rassemblent beaucoup de gens, et même des analphabètes, comme des gens qui ont étudié. Il serait mieux aussi d'associer les églises pour que les églises puissent présenter aux gens les rôles ou l'importance de la banque. Par exemple, ici à Kim, nous n'avons qu'une seule banque, nous avons plusieurs coopératives, mais il faut encore un grand travail pour sensibiliser la population.
Oui, mais au niveau des églises aussi, il y a certaines coopératives, il y a des églises qui encadrent même des personnes pour pouvoir créer des coopératives, mais au niveau de vos églises, est-ce que ça n'existe pas déjà?
Non, à Kim, ça n'existe pas.
Merci beaucoup Gaston pour votre préoccupation. Nous allons à Mbujimayi au Kasaï oriental. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour madame, bonjour.
On vous écoute Jean-Pierre.
Oui, je venais à peine de suivre vraiment le débat qui est sur la radio. Je suis beaucoup plus soulagé en ce sens que je suis le chargé de crédit dans une institution de microfinance.
Oui, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ça?
Oui, les difficultés, d'abord, il y a nos amis qui ont pris tout un sac de péché pour mettre sur nous les banquiers. Mais nous vous disons qu'il y a aussi la population qui a sa grande part de la responsabilité.
Oui.
En ce sens que l'année passée, nous avons émis sur terrain plus de 2 millions de dollars. Et nous avons trouvé que les projets pour lesquels nous avons financé, les projets pour lesquels le client a demandé un crédit, après le financement, le projet a été détourné. Et nous trouvons à présent une difficulté en ce sens que parce que si le client ne rembourse pas l'argent, c'est l'argent des épargnants, c'est vrai, bien que nous avons nos réserves. Mais si le client ne rembourse pas l'argent, ça met l'institution de microfinance en difficulté. Et ici chez nous, nous avons trouvé que la culture de l'épargne, la culture de remboursement des dettes n'est pas vraiment à jour. Notre intervenant, le dernier, il a parlé de l'église. Ici, nous avons sensibilisé même les églises pour relever le niveau de vie. Même de la maman qui peut vendre des braises, qui peut cultiver le champ pour qu'elle puisse avoir un certain seuil de vie sociale.
Oui.
Il y a aussi, je disais, le non-respect des projets. Nous avons aussi l'État qui doit intervenir, l'État doit nous encadrer. Je crois qu'on doit avoir une conférence de microfinance plutôt que nous attaquer de gauche à droite.
Mais en attendant, qu'est-ce que vous faites sur terrain, Bougimain, par exemple, concernant la sensibilisation des populations pour le remboursement des crédits?
Oui, pour le remboursement des crédits, nous visitons les clients à leur place d'activité ou à la maison, nous les appelons dans des réunions, nous les formons pour qu'ils puissent comprendre que ça dépend du bien-être de ces derniers. C'est de cette façon-là que nous contribuons à l'avancement de la province, pourquoi pas du pays en général.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour votre intervention. On vous appelle à partir de Mbujimaï, au Kasaï oriental. Nous allons dans la province voisine, au Kasaï occidental. Bonjour, Dodé.
Bonjour.
Dodé, on vous écoute.
Ok, moi je vais dire ceci. Ce que l'autre intervenant venait de dire, il y a d'abord un problème. Ils veulent toujours donner des microcrédits, mais demandez-lui pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas accorder des crédits à des entreprises qui peuvent donner beaucoup d'argent par après. Et je vais en plus dire, la banque congolaise doit aussi aider la population. Ceci. La banque doit mettre à la disposition de la population des informations sur le banque. Parce qu'on ne sait pas réellement qui sont derrière le banque. Les banques qui nous demandent de déposer là. On n'a pas ces informations-là. La banque congolaise doit nous aider en cela. Et en plus, l'État congolais doit prendre le secteur économique en main. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les étrangers qui dictent le secteur économique. C'est là les musiques.
Merci beaucoup, Dodé, pour vos propositions, vos suggestions et votre avis que vous avez donné. Nous avons aussi Prosper de Guémena qui nous a écrit. Lui, il veut savoir comment les banques obtiennent-elles les intérêts et qu'est-ce qu'elles payent à l'État. Nous allons continuer notre émission après ceci.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Monsieur Victoire Eyobi, vous êtes notre invité, vous êtes expert en économie, aussi directeur de publication du magazine économique Entreprendre. Plusieurs questions, encore une fois, de nos auditeurs, notamment notre auditeur qui nous a appelé de Kinshasa, il est plutôt Gaston qui nous a appelé de Kindu. Il dit qu'il n'y a pas assez de sensibilisation au niveau des populations. Mais nous avons aussi notre auditeur Jean-Pierre, il lui-même est chargé de crédit, dit qu'il y a une part de responsabilité de la population dans l'octroi même des crédits.
C'est pour cela que j'avais dit tout à l'heure que, en ce qui concerne le crédit, il y a tout un chemin à accomplir. Donc, c'est un problème de confiance entre les deux parties. C'est-à-dire que non seulement que vous avez ouvert un compte, mais encore, on doit savoir si exactement sur le terrain vous fonctionnez et vous pourrez, à échéance, comment rembourser l'argent qu'on vous a prêté. Donc, il faut s'organiser d'abord du côté de la clientèle. Il faut une petite organisation, il faut monter votre projet convenablement de manière à ce que ces projets produisent et que vous soyez capable capable de rembourser. Les remboursements, comment les crédits aux grandes entreprises, comme l'auditeur de... aux grandes entreprises.
Même pour la construction des maisons.
La construction des maisons, tout cela, comment tous ces éléments sont en train de venir. Mais ce qui est vrai, c'est que la scène économique congolaise est en train de se recomposer, de se reconstituer. Déjà, c'est un pas de savoir qu'il y a des crédits qui sont donnés aux populations après autant d'années de crise, mais encore, il faut que les banques puissent s'organiser. Nous avons relevé ici que la plupart des banques sont tenues par des étrangers et l'un des auditeurs a dit que il va de leur politique. Je vois mal un étranger qui viendrait avec la première préoccupation, les maisons pour les Congolais, c'est un peu difficile.
Mais lui-même, il vient d'abord pour investir.
Oui, pour investir, pour faire des affaires. C'est à nous maintenant, Congolais, de voir le déploiement qui s'est fait dans les secteurs bancaires, de nous investir également de ces côtés, parce que nous avons également assez de moyens, et voir comment aider concrètement au développement, soit dans les secteurs agricoles, parce qu'il y a une banque de crédit agricole qui existe d'ailleurs, soit dans les secteurs des PME, soit dans les secteurs des grandes entreprises. Donc il y a autant de secteurs où chacun peut se tourner pour contribuer au développement de notre pays.
À la question de Prosper, il voudrait savoir d'où vient en fait l'argent ou comment est-ce que les banques obtiennent-elles les intérêts?
Oui, vous savez,
qu'est-ce qu'elles payent à l'État?
Oui, les banques offrent une série de services aux populations. Il y a non seulement l'épargne de leur argent, mais il y a également les crédits qui sont octroyés, il y a les crédits d'équipement, les crédits à la consommation, il y a les financement des PME, il y a les opérations d'échange, la messagerie financière, il y a l'internet banking. Donc c'est autant de services qui permettent quand même aux banques d'avoir quelque chose, d'avoir de l'argent pour leur fonctionnement.
Oui.
Mais également, ils sont également astreints à payer certains montants, à être légalement dans des bonnes conditions vis-à-vis de la banque centrale.
Une question assez simple. Nous en venons de recevoir un mail de Eric. Il réside en Europe. Il dit « Je suis résident en Europe. Comment faire pour ouvrir un compte au Congo ?» Il voudrait un peu savoir comment ça se passe. Ça rejoint même la question de l'un de nos auditeurs qui a tout simplement demandé comment ça se passe, parce qu'il dit qu'il y a des fois, il met son argent en compte, mais il constate qu'on est en train de soustraire, de grignoter. Pouvez-vous un peu l'expliquer comment ça se passe?
Oui, jusque-là, les comptes est nominatif, c'est-à-dire est lié à l'individu, et dans la plupart de nos banques sur place ici, il faut être présent, c'est-à-dire il faut être présent, sa carte d'identité, ou bien son passeport et autres, et vous êtes enregistré, soit après avoir rempli certaines conditions de paiement, soit c'est gratuit, comme ça s'est fait dans le microcrédit. Mais la présence est très importante, mais encore, il y a moyen, il y a des banques qui ont de...
Pour ouvrir un compte par Internet.
Oui, par Internet également, mais il y a également des banques qui ont des représentations à l'extérieur. Il y a moyen de devenir membre de cette banque, même à partir de l'extérieur.
Mais c'est facile d'ouvrir un compte parce que nous utilisons le franc congolais avec la dévaluation face au dollar américain. Il suffit aujourd'hui de déposer 1000 francs, après 3 mois, ça ne vaut plus 1000 francs. Est-ce que cela, ça peut encourager vraiment les gens à déposer leur argent dans les banques?
Oui, ça doit encourager parce que le franc congolais, c'est notre monnaie que nous utilisons au jour le jour. Et on ne sait pas quand on dépose exactement l'argent, quand on va retirer. Ça dépend de la politique de chacun. Mais il y a plusieurs possibilités qui sont données aux clients. Notamment, ils peuvent ouvrir un compte en dollars ou bien en euros. C'est autant de possibilités pour conserver son argent.
Nous avons Jimmy, nous appelle de Béni. Honore qui vous. Bonjour Jimmy.
Oui, bonjour madame.
Et pour vous, comment est-ce que vous pensez que les banques peuvent contribuer à l'amélioration du quotidien des Congolais?
En fait, tout ce que nos amis intervenants ont parlé d'avance là, ça contribue déjà parce que le temps qui pouvait contribuer au développement, c'est quand on octroie des crédits aux clients, c'est-à-dire à la population. Mais maintenant, ici à Béni, je voulais un peu parler de cas un peu plus spécifique parce que pour la sensibilisation des grandes banques ici dans notre milieu, cela n'a pas eu lieu.
Mm-hmm.
La population a peur des grandes banques, aussi l'histoire du passé. Voyons un peu avec la guerre et tout ce qui a suivi, la guerre de libération qui consorte, nous avons été vraiment un terrain de beaucoup de problèmes qui a fait que les gens n'ont pas pu encore épargner dans le banque.
Et après la guerre, les grandes banques n'ont pas pu encore sensibiliser la population de s'armer dans le banc.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jimmy. Nous avons compris. C'est une question vraiment de confiance que vous avez encore une fois relevée. La confiance des deux côtés. Hein. Les banques n'ont pas confiance aux personnes qui veulent prêter. Les prêtants aussi n'ont pas confiance. Les détenteurs d'argent n'ont pas aussi confiance à pouvoir déposer leur argent. Nous allons prendre notre dernier intervenant. Il s'agit de Monsieur Élise Bounia. Il nous appelle de Bounia. Bonjour, Élise.
Élisée, bonjour.
Bonjour, monsieur Élisée. Vous nous appelez de Bounia en Ituri. Votre contribution, nous sommes presque à la fin de notre émission.
Ok, merci bien. En tout cas, tout ce qui est dit est bien beau, mais je ne sais pas ce que notre invité pense de ce que les organisations de microfinances ici à Bounia ont fait des épargnes des gens. Beaucoup de gens ont mis confiance à ces organisations. Au début, quand ils étaient arrivés, les gens déposaient l'argent. Des fois aussi, ils prêtaient aux gens de l'argent. Mais curieusement, à un moment donné, toutes ces institutions fermées et avec toutes les épargnes déjà, je ne sais pas qu'est-ce que même l'État pense de cette situation.
Merci beaucoup, monsieur Élisée. Vous nous appelez de Bounia en Ituri. Notre invité va nous donner plus d'informations. Nous sommes presque vraiment à la fin de notre émission. En une minute, est-ce que vous pourrez nous dire cette affaire de confiance qui ressurgit? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces populations qui hésitent encore par rapport aux banques, et même ceux qui ont essayé d'avoir confiance aux banques se sont vus, en fait, ils ont tout ce qu'ils avaient a disparu dans la nature parce qu'ils avaient mis leur confiance dans ces banques.
Oui, vous savez, la confiance, c'est l'élément le plus important. Nous sommes dans une scène économique qui est en train de se reconstituer. Donc, il y a lieu que d'un côté les banques, de l'autre les populations, qu'ils puissent se tendre la main. Notre économie ne peut se développer sans les banques, sans des financements, sans de l'argent que nous-mêmes nous avons à épargner et que nous pensons orienter dans un domaine comme dans l'autre.
Mais concernant en fait la paupérisation, on dit que les gens sont n'ont pas assez d'argent pour pouvoir épargner.
Oui, mais vous savez, notre pays est entièrement dirigé par l'informel. Et dans cet informel, aujourd'hui, les mamans maraîchères sont en train d'ouvrir des comptes, les tailleurs ouvrent des comptes, les cordonniers ouvrent des comptes. C'est un défi pour les restes de la population. Mais c'est question également que la Banque centrale puisse veiller davantage pour le bon fonctionnement des microfinances et les banques commerciales pour que la confiance soit vraiment réelle.
Merci beaucoup, Monsieur Victor. Et oui, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes économiste et directeur de publication du magazine économique Entreprendre. Et surtout, merci à vos auditeurs. Vous avez participé très très nombreux à votre émission interactive. Et nous nous retrouvons demain. Notre sujet, ce sera, si vous l'avez constaté, depuis le début de l'année académique 2009-2010, la fixation des prix académiques dans les instituts supérieurs et universitaires publics diffère d'un institut ou d'une université à l'autre. Selon vous, quel mécanisme à mettre en place pour harmoniser ces faits? Merci à toute l'équipe de Parole aux auditeurs pour nous avoir soutenus et avoir organisé cette émission.